La déception des sionistes israéliens après la visite de Biden est totale depuis la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient et sa visite de 3 jours en Israël. Les médias israéliens se font l'écho d'une déception dans les milieux politiques et militaires israéliens quant à ses résultats sur le dossier iranien en particulier. Biden, ayant opposé une fin de non-recevoir aux exigences israéliennes. Selon les médias israéliens, le gouvernement israélien voulait obtenir un engagement en vue d'une menace militaire réelle de l'Iran. Nous sommes venus et nous avons demandé de formuler une menace militaire réelle lors de la visite de Biden. Nous voulions que le point de départ soit une menace militaire réelle, mais nous ne sommes pas entendus avec les Américains sur ce point, a admis le Premier ministre Yair Lapid, rapporte les médias israéliens. D'institutions militaires israéliennes semblent partager la déception du gouvernement israélien. Son chef d'état-major, Aviv Kochavi, défendant la thèse selon laquelle la préparation du choix militaire contre l'Iran relève d'un devoir moral et constitue une question primordiale pour la sécurité nationale. Concernant les discussions entre Lapid et Biden, la télévision israélienne, Channel 13, rapporte que lorsque le premier ministre israélien a évoqué la nécessité d'un choix militaire réel pour affronter la menace iranienne, Biden lui a répondu « Nous sommes attachés aux moyens diplomatiques ». Et lorsqu'il a été interrogé éternellement, il a répondu « J'ai foi en la diplomatie ». La chaleur des rencontres n'a pas caché les divergences entre Israël et les États-Unis d'Amérique quant à la politique adoptée vis-à-vis de l'Iran, constate Channel 13. Les Américains n'ont pas bougé d'un iota de leur position et ils s'en tiennent toujours à l'accord sur le nucléaire de 2015. Ils veulent y revenir et la balle est dans le camp de l'Iran, conclut-elle. On rapporte aussi que Biden insistait pendant les discussions sur les moyens d'insertion d'Israël dans la région, tandis que Lapid lui objectait qu'il fallait former une alliance dans la région pour affronter l'Iran et afficher son opposition au retour de Washington à l'accord nucléaire, insistant sur la nécessité de renforcer les pressions sur lui pour qu'il revienne à la table des négociations et discuter un accord alternatif selon ses propres termes, et qu'il lui avait dit « Nous avons appris de la confrontation entre la Russie et l'Ukraine qu'il peut parfois avoir recours à la force. Les Iraniens veulent détruire le seul État existant pour les Juifs dans le monde et nous le permettront pas. » Selon la chaîne de télévision israélienne Khan, Israël et les États-Unis avaient des objectifs diamétralement opposés. Le gouvernement israélien voulait que Washington réalise 3 choses. La première, une déclaration sur l'inutilité du retour à l'accord nucléaire. Les États-Unis auraient dû, en conséquence, passer à une autre stratégie avec l'Iran. Deuxièmement, vu que la première chose n'a pas été réalisée, il fallait à minima que Washington détermine un délai temporel pour annoncer l'échec de la perspective diplomatique avec l'Iran. Troisièmement, et c'est le plus important, une menace militaire américaine à l'Iran, vu qu'il continue d'avancer vers la bombe nucléaire, précise la télévision israélienne. Rapportant qu'il n'y a aucune déclaration sur le renoncement à un accord diplomatique avec l'Iran. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé de geler l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ce 18 juillet à la veille d'un sommet tripartite avec la Russie et l'Iran à Téhéran. Nous constatons particulièrement que la Suède ne renvoie pas une bonne image à ce sujet. Lors du sommet de l'OTAN fin juin à Madrid, Recep Tayyip Erdogan avait sommé les 2 pays nordiques de prendre leur part dans la lutte contre le terrorisme dont il accuse les organisations kurdes dans le nord de la Syrie, sous peine de revenir sur l'accord d'élargissement de l'Alliance Atlantique. Nous avons adopté une attitude extrêmement claire pour la poursuite de l'élargissement de l'OTAN. Je veux rappeler une nouvelle fois que nous gèlerons le processus si ces pays ne prennent pas les mesures nécessaires pour remplir nos conditions, a déclaré le président turc devant la presse à l'issue d'une réunion de son gouvernement. Nous constatons particulièrement particulièrement que la Suède ne renvoie pas une bonne image à ce sujet, a-t-il accusé. La Turquie a levé son veto à l'adhésion des deux pays nordiques en échange de leur coopération concernant les membres de mouvements kurdes classés comme terroristes par Ankara. Recep Tayyip Erdogan avait notamment évoqué une promesse faite par la Suède. Concernant l'extradition de 73 terroristes, Stockholm avait entretenu le flou sur cette question, en rappelant que ces décisions en matière d'extradition étaient soumises à une justice indépendante. Le président turc doit embarquer dans la soirée du 18 juillet pour Téhéran, où il s'entretiendra avec les présidents russes Vladimir Poutine et iranien Ebrahim Raisi. La Russie, la Turquie et l'Iran sont trois acteurs majeurs dans le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Ils ont lancé en 2017 le processus dit d'Astana qui visait officiellement à ramener la paix dans ce pays. Outre la Syrie, la rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et son homologue turc devrait être dominée par des discussion sur l'opération militaire russe en Ukraine. La ruée vers l'or noir russe, surtout en Sibérie, a commencé. Les propriétaires de pétrolier en Europe expédient autant de brut russe que possible avant que les sanctions énergétiques contre Moscou n'entrent en vigueur en décembre, écrit www.wsj.com dans un article que je vais vous lire. Les propriétaires de pétroliers en Europe expédient autant de brut russe que possible avant que les sanctions énergétiques contre Moscou n'entrent en vigueur en décembre. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, les pays occidentaux se sont engagés à se séparer du brut de Moscou et les sanctions imminentes ont fait craindre aux transformateurs et amateurs européens d'être mis sur liste noire pour avoir manipulé le carburant. Les expéditions vers l'Asie, quant à elles, ont explosé. La Chine a presque doublé sa consommation de brut russe à une moyenne de 1,13 million de barils par jour en juin contre 610 000 barils par jour en février selon le fournisseur de données énergétiques Vortexa. L'Inde a importé environ 1 million de barils par jour le mois dernier contre pratiquement zéro au cours des deux premiers mois de cette année. Sur la base de cette tendance, il semble possible que la Russie puisse exporter tout le brut disponible sans acheteurs américains ou européens, a déclaré David Wetch, économiste en chef de Vortexa. Les propriétaires de pétroliers grecs, qui contrôlent près d'un tiers de la flotte mondiale, ont transporté environ la moitié des volumes de brut russe en mai et juin, selon des courtiers. Yozdis Intelligence estime qu'au cours de ces deux mois, les navires exploités par la Grèce ont effectué 151 escales dans les ports russes de la mer Noire et de la mer Baltique contre 89 escales l'année précédente. Les pétroliers grecs naviguent également jusqu'en Sibérie, domaine traditionnel des amateurs chinois et russes, le Kriti. Legend, qui appartient et exploité par Avin International, est arrivé le 12 juillet au port de Leizhou en Chine après avoir transporté du brut de Cosimno en Sibérie russe, selon le fournisseur de données maritimes Marine Traffic. Avin n'a pas renvoyé de demande de commentaire. Les sanctions de l'UE entreront en vigueur le 5 décembre et appellent à l'interdiction des expéditions de pétrole russe vers l'Europe. Les expéditions en dehors du continent par les opérateurs de pétroliers ne seront pas interdites, mais les navires ne pourront pas obtenir de couverture d'assurance rendant toute navigation illégale en vertu du droit maritime international. La longue piste avant l'interdiction d'expédition est censée donner suffisamment de temps au gouvernement pour passer à des sources d'énergie alternatives en dehors de la Russie, selon les responsables de l'UE, écrit le site. Réseau international revient sur la dernière déclaration du ministre de la Défense russe qui a demandé d'accélérer l'offensive en Ukraine. Le 16 juillet, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, est venu en Ukraine pour inspecter les militaires russes déployés dans le pays voisin. Le chef du département militaire russe a donné les instructions nécessaires pour accroître encore les actions des militaires russes dans tous les domaines opérationnels afin d'exclure la possibilité pour le régime de Kiev d'infliger des frappes massives de missiles et d'artillerie sur les infrastructures civiles et les habitants des localités du Donbass et d'autres régions. Au poste de commandement, le général d'armée Sergueï Choïgou a entendu les rapports du général d'armée Sergueï Surovkin, commandant du groupe sud, du colonel général Alexander Lapin, commandant du groupe centre et d'autres commandants sur la situation actuelle, la nature des actions ennemies et le déroulement des missions de combat des forces armées russes. L'ordre du ministre russe de la Défense pourrait marquer le début d'une offensive majeure des forces dirigées par la Russie dans la région de la ville de Donetsk. Il s'agit de l'une des zones les plus lourdement fortifiées où l'avancée russe a été presque stoppée. Les forces armées ukrainiennes déployées près de la ville de Donetsk bombardent quotidiennement les civils vivant dans la région, ce qui augmente le nombre de victimes, écrit Réseau international. Moscou avait précédemment prévenu que la partie russe ne se battait pas encore en force, mais qu'elle menait une opération spéciale avec des moyens et des forces limitées. Dans le même temps, le Kremlin soulignait qu'il était prêt à négocier depuis le début de l'intervention russe. Aujourd'hui, nous entendons dire qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Eh bien, que puis-je dire ici? Qu'ils essaient, a déclaré le président Poutine le 7 juillet. Le président russe a ajouté que nous n'avons pas encore vraiment commencé quoi que ce soit. Poutine a déclaré que Moscou n'abandonnait pas les pourparlers de paix, mais ceux qui refusent doivent savoir que plus ça va, plus il sera difficile de négocier avec nous, a déclaré le chef de l'État. Dans le même temps, Poutine a assuré que l'armée russe ne va pas mobiliser de forces supplémentaires. La Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Si les groupes russes stationnés dans le Donbass et dans d'autres régions d'Ukraine ne sont pas renforcés par des forces supplémentaires, on ne voit pas comment l'armée russe pourrait exécuter l'ordre de Choïgou, écrit South Front. Zelensky ne fait plus confiance à son entourage et procède à un balayage. Alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky semble ne plus avoir confiance en certains de ses collaborateurs, il a procédé au limogeage de deux hauts responsables du pays et à l'arrestation d'un autre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis de ses fonctions la procureure générale du pays Irina Venediktova et suspendu le chef du service de sécurité de l'Ukraine, SPU Ivan Bakanov. Les deux décrets ont été publiés ce dimanche sur le site de la présidence. Dans la foulée, Zelensky avait ordonné plus tôt l'arrestation de l'ancien chef du service de sécurité de l'Ukraine, SPU Oleg Kulinich, qui a été interpellé le 16 juillet en Crimée et soupçonné de haute trahison. Le dirigeant du pays a annoncé la nouvelle sur sa chaîne Telegram, rappelant qu'il avait limogé dès le début de l'opération spéciale de la Russie. Nous constatons que cette décision était absolument justifiée, a-t-il écrit. Il a affirmé que les preuves étaient suffisantes pour l'accuser de haute trahison. Tout ce qui, avec lui, faisait partie du groupe criminel déployant des activités dans l'intérêt de la Russie assumeront également leurs responsabilités, a-t-il ajouté. Il a affirmé qu'il s'agissait de la remise à la Russie d'informations secrètes et de trophées de coopération avec les services secrets russes. Selon l'agence RBC Ukraine, l'ancien chef du SPU en Crimée, Oleg Kulinich, travaillait au sein des services au moment de son interpellation. Il était l'adjoint du patron du SPU, Ivan Bakanov, qui a été limogé par Volodymyr Zelensky, selon Actu Cameroun.